en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en habit vert vous propose pour cette nouvelle émission de vous intéresser à un personnage de l'histoire de la médecine contemporaine, membre de quatre académies. L'Académie de chirurgie, l'Académie nationale de médecine, l'Académie française et l'Académie des sciences. Et pas moins de deux hôpitaux portent son nom. Il s'agit d'Henri Mondor, né en 1885 et mort en avril 1962. Nous fêtons en 2012 le cinquantenaire de sa mort. À la fois chirurgien, écrivain, féru de poésie, notamment celle de Mallarmé, dessinateur à ses heures perdues, pour dresser avec nous le portrait du chirurgien-poète, le professeur Claude Amonet est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes ancien chef du service de médecine physique et de réadaptation du CHU Henri Mondor à Créteil, professeur émérite à l'UPEC, Université Paris-Est Créteil. Actuellement, vous réalisez des consultations spécialisées à l'Hôtel Dieu et à Garches. Pourquoi vous êtes-vous intéressé, Claude Amonet, au parcours d'Henri Mondor ?
D'abord, pour une raison générale, c'est que je m'intéresse beaucoup à la médecine. Et pour moi, la médecine est une forme d'humanisme. Et Henri Mondor est précisément un humaniste et un chirurgien. Et me trouvant par hasard, tout à fait par hasard, à créer un service au CHU Henri Mondor, au moment de son ouverture, au moment des 30 ans de cet hôpital, des 150 ans de l'assistance publique hôpitaux de Paris, il y avait une commémoration à préparer. Et on a demandé des volontaires, notre commission médicale, et j'ai levé la main, parce que je pensais que c'était une chose très importante, et je m'y suis beaucoup intéressé, plus que je ne le pensais au départ, parce que c'est un personnage, en fait, très passionnant.
Alors, on va le voir, justement, au cours de cette émission. Si vous voulez bien, commençons par l'environnement familial d'Henri Mondor. Il naît en 1885 dans le Cantal, d'une famille plutôt modeste. Avec un père instituteur, on aurait même pu penser qu'il aurait pu suivre les traces de son père, mais ce n'est pas le cas.
Alors, c'était, je crois, le désir de son père, mais lui ne voulait pas. Ça a été pourtant ce qu'a fait son frère. Il faut savoir qu'il avait un frère qui était un an plus âgé que lui, qui malheureusement a été décimé à la guerre de 14-18 très rapidement, et donc il a très peu connu. Et lui ne voulait pas, mais il avait une autre raison de penser à la médecine. C'était sa mère. Voilà. Il avait une grande admiration pour sa mère. Et sa mère était une citadine. Son père était un directeur d'école, formation de professeur des écoles, autrefois instituteur, et qui était, lui, d'un milieu plutôt rural. Tandis que sa mère avait fait des études dans une institution religieuse, avait suivi un cycle éducatif et culturel un peu différent, et elle avait une forte ambition pour son fils. Et un jour, elle lui a dit « tu seras médecin ». C'est pas elle directement qui a dit ça. C'est curieusement un géologue, ami de la famille, et il avait, je crois, 6 ans. Et à ce moment-là, il s'intéressait beaucoup aux cailloux, aux silex, à la nature. Il y avait un esprit de collection. Et surtout, le géologue a dit, il est observateur, il est attentif, plus exactement. Il a dit, il est attentif. Et ça s'est bien révélé par la suite, il est attentif. Faites-en un médecin.
Et donc, effectivement, il est devenu médecin, mais avant, donc, il part à Paris faire des études de médecine.
Exactement. Alors, il est venu à Paris, il est monté, comme on disait à l'époque, à Paris. Je ne vais pas me tromper sur la date, je crois que c'est 1903.
1903.
Et là, il a rencontré un certain nombre de personnes, notamment un personnage qui aura joué un rôle très important, qui jouera, pardon, un rôle très important dans sa vie, c'est Georges Duhamel. C'était un grand ami et l'Académie... pour les deux, a joué un rôle pour les rapprocher après, tardivement, mais aussi la guerre. Ils ont été chirurgiens ensemble pendant la guerre. Et Duhamel est un personnage très intéressant également sur le plan médical, humain. Et curieusement, Georges Duhamel est venu à Créteil, où il y a eu après son passage à l'hôpital Henri Mondor, il n'y a pas de lien, mais Georges Duhamel a créé un phalanstère à un moment de sa vie. Et ça s'est passé à un endroit qu'on appelle l'abbaye à Créteil, c'est un quartier, une ancienne abbaye probablement. Et la maison existe toujours, et c'est un lieu actif. Et dans cet endroit, Georges Duhamel a vécu plusieurs années, et précisément, ensuite, il y a Henri Mondor. Et il y a une rue Duhamel à Créteil, il y a une salle de spectacle Georges Duhamel, et donc ils se sont rapprochés même de cette façon-là. Ils ne se sont jamais quittés, en fait.
Destin croisé, alors.
Exactement.
Alors, vous disiez effectivement que ce géologue qui voit ce petit garçon à 6 ans en disant « vous en ferez un médecin, il est attentif ». Être attentif, c'est une chose, mais il faut quand même faire des études et être brillant dans ses études. Et je crois qu'Henri Mondor a quand même des facultés, des capacités très importantes.
Alors, Henri Mondor était un grand travailleur. Il l'a toujours montré dans sa vie. Très organisé, manifestement. Arrivant à faire toutes ses activités, les activités diversifiées qu'il avait, dans un ordre efficace, sans qu'aucune ne nuise aux autres. Et il a fait le parcours qui est le parcours le plus honorable qu'on puisse suivre, c'est-à-dire l'internat des hôpitaux de Paris. À l'époque, c'était un concours difficile, très sélectif, et il y avait 55 candidats quand il a été nommé en 1909. Et là, en 1909, il était classé déjà cinquième. Mais il y a aussi un autre concours à la fin de l'internat, parce que la médecine est faite comme ça d'étapes et de concours, elle l'est encore. Et précisément, ce concours, c'était la médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Paris. Cette médaille d'or se donnait à un seul interne en chirurgie et à un seul interne en médecine à la fin de l'internat. Et ça donnait le droit de refaire une année supplémentaire là où on voulait. Et il a été médaille d'or de l'internat des hôpitaux de Paris.
Et quel étudiant était-il ? Est-ce que c'était quelqu'un qui, effectivement, vous disiez travailleur, mais en même temps avait vraiment la joie de vivre, puisque je sais qu'en étant à la fac de médecine, parfois, les fêtes sont
l'esprit carabin très arrosé. Et des salles de garde d'internat. On n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, et moi, j'en ai pas en tout cas particulièrement. Par contre, le lien avec la salle de garde, il existe. Les salles de garde sont des lieux qui sont quelquefois perçus comme ça, et trop, parce qu'il n'y a pas que ça. Comme des lieux un peu de, je dirais, grivois, où il y a des dessins sur les murs qui sont très artistiques souvent, mais qui sont quand même assez érotiques, faut bien dire le mot. Et on comprend, parce que ces internes sont confrontés avec la mort, parce que l'interne, et Henri Mondor le met en avant énormément, il dit que c'est l'interne qui amène sa jeune science le matin, qui écoute le patient, qui est le premier confident, et qui est là près du patient, le patron lui passe. Mais l'interne, il est là. Et ces internes ont été mis en place justement parce que dans les hôpitaux, il n'y avait pas de médecins. Il y avait de temps en temps des médecins consultants. Et on a voulu mettre des permanents, ça c'est 1802, Napoléon encore. Et là, ils s'appelaient internes parce qu'ils logeaient dans l'hôpital et ils étaient là tout le temps. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Le concours n'est plus le même, mais l'esprit, je pense, reste le même. Et précisément, c'est dans ce contexte-là que Henri Mondor a vraiment voulu montrer combien la compassion, il parle de compassion pour le patient, est importante.
Alors, on arrive aussi à une étape de l'histoire assez importante, c'est la guerre de 14-18. Donc, je crois savoir que le frère, vous en parliez au début de cette émission, le frère d'Henri Mondor meurt au champ.
Il est mort très rapidement, je crois que c'est un éclat d'obus qui l'a tué, il me semble,
début de la guerre. Et alors, Henri Mondor, que fait-il pendant cette période de guerre?
Alors, lui, 14-18. Il était bien sûr médecin. Il était chirurgien, il était déjà formé en chirurgie, donc il a été chirurgien, il a énormément travaillé. C'est une époque aussi, c'était ce champ de bataille, et ce qu'il y avait derrière était pour les chirurgiens des occasions de développer la chirurgie. Ils ont fait des exploits véritablement, et beaucoup de techniques chirurgicales ont été beaucoup avancées à ce moment-là. Et particulièrement, lui, il a décrit un signe, c'est un signe qui exprime qu'il y a une plaie cardiaque. On n'avait pas les moyens d'investigation aujourd'hui et on était souvent dans des conditions assez terribles, près du front, et il fallait faire un diagnostic très vite. Et là, c'est les jugulaires. Au niveau du cou, il y a un battement particulier des jugulaires. Ça, c'est le signe de Mondor, c'est un signe de Mondor, un des 5 signes de Mondor. Il y en a, je crois, 5 au total avec sa maladie. Et donc, c'est lui qui a décrit ça sur le champ de bataille. Et c'est là qu'il a travaillé beaucoup aussi avec Duhamel. Et Duhamel a fait des livres assez extraordinaires sur ce qui s'est passé pour les médecins et les chirurgiens pendant la guerre de 14-18.
Alors justement, venons-en à la vie du chirurgien Henri Mondor. La guerre se termine et puis il entre très rapidement en tant que chirurgien dans un hôpital.
Oui, alors lui, il a fait donc un parcours qui est le parcours habituel. Bon, il était déjà aide d'anatomie, il avait passé sa thèse en 1914, et puis en 1923, il est nommé professeur agrégé. Alors, il a commencé avec une consultation de chirurgie, et il faut dire qu'il était l'élève de Le Seine. Le Seine, c'était un très grand chirurgien, et c'était son patron.
Paul Le Seine.
Exactement, Paul Le Seine. Et qui a une rue à Paris, et il a fait un livre à l'occasion de cette rue. Et donc, Le Seine était à Saint-Louis, et lui, il a exercé dans plusieurs endroits, et en particulier à l'Hôtel-Dieu. Il était chirurgien à l'Hôtel-Dieu. Il a été aussi un chirurgien à l'hôpital Beaujon, il a été à Necker, mais de façon assez épisodique. Là où il a véritablement créé son service, qui est resté célèbre, et où il y a son buste d'Henri Mondor, un des bustes d'Henri Mondor, c'est à la Salpêtrière, qui est devenue la Pitié-Salpêtrière. On évoquait tout à l'heure les questions de salle de garde. C'est quelqu'un qui a tout de suite, il y a Paul Fargue qu'il avait rencontré pendant ses études de médecine, il s'est rapproché tout de suite des milieux littéraires et il a toujours fait les deux, et la salle de garde et je pense les cafés où il se réunissait pour discuter de littérature. Et tout ça, c'était dans les mêmes quartiers, les quartiers latins, enfin disons en élargissant un peu. Et Henri Mondor était célèbre dans les salles de garde parce qu'il faut le dire, bon, il était célibataire et il avait une vie amoureuse assez libre. Le test, c'est connu, c'était que quand ça s'était passé bien, disons, il offrait une paire de bas violets. Et donc on voyait quelqu'un, une femme avec des bas violets. Alors il y a une fresque de salle de garde, où, ce qui est très très bien, qui est magnifique, qui est une peinture fantastiquement artistique. Et justement, on voit le déménagement de la salle de garde de la Pitié et on voit donc embarquer sur un bateau parce qu'il y avait un changement d'hôpital. Et là, il est peint avec un geste un peu indélicat puisque la personne qui d'ailleurs est nue et qui est une des chirurgiennes déjà à l'époque connue, et il a un geste avec sa main qui est un geste amoureux. Ça a été corrigé parce qu'elle a protesté, mais elle a gardé les bas violets, bien que semble-t-il, et il n'y ait jamais eu de suite. Ce que font souvent les internes, ils sont assez irrespectueux parce que ils sont irrespectueux avec la mort. C'est pour ça que le sexe joue un rôle très important parce que c'est un contrepoids à la mort. Je racontais tout à l'heure que les internes étaient là seuls et moi je l'ai vécu à l'époque. J'ai commencé mon internat tout seul pour les enfants malades Necker. Des gens qui arrivaient d'Afrique avec des urgences, c'est absolument terrible. On était confrontés à des choses terribles.
Il fallait donc contrebalancer agir, avec des choses
et
beaucoup
et
plus
se retrouver
légères.
Dans la salle de garde, dans une autre ambiance, c'était presque nécessaire. Enfin, c'était tout le moins une réaction. Donc, Henri Mondor avait cette réputation. C'était pas quelqu'un de débauché, loin de là. C'est un monsieur de très grande classe, très respectueux, des femmes en particulier. Et c'est cette petite anecdote de la vie d'Henri Mondor. Et il était très intéressé par sa mère. Il avait toujours le portrait de sa mère devant son bureau, en permanence. Il a eu jusqu'à sa mort.
Alors, une vie dédiée, on l'imagine, à la médecine. Je crois savoir qu'il opérait 2 à 3 patients par jour et enchaînait après, ou avant d'ailleurs, mais dans la journée, il donnait ses cours et après opérait 2 à 3 patients par jour.
Il a une activité chirurgicale et de clinique continue jusque très tardivement. Et alors ça, c'est un souvenir personnel parce que dans cette quête d'Henri Mondor, j'ai regardé beaucoup les archives, j'ai cherché et il se trouvait que le directeur de la Pitié-Salpêtrière, où était son service, son ancien service, est un ancien directeur de Mondor. Donc je l'ai contacté et je lui ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des archives? Il me dit, mais on est en train de vider, dans un sous-sol, sous la chapelle, enfin, chapelle de la Salpêtrière, des archives qui ont appartenu à Henri Mondor. Demain, on déménage tout. Ah, j'ai dit, arrêtez. Et alors on est allé les chercher et on a trouvé là quelque chose de formidable, c'est son cahier de consultation. L'assistant public, écrit à la main, tous les patients, heure par heure, et c'est tous les jours, il consultait, enfin pratiquement tous les jours, il consultait énormément, il allait tous les jours à l'hôpital. Et c'est ce qu'il dit, c'est que, on parlait de la médecine des pauvres, enfin, des personnes en plus en difficulté, c'était de se consacrer comme chirurgien aux personnes, quelles qu'elles soient, les plus en difficulté.
Alors un chirurgien attentif, hein, on l'a bien compris.
Absolument attentif,
un chirurgien aussi, on peut le dire, humaniste, c'est le terme que vous avez employé.
J'aime beaucoup ce terme, parce qu'on en parle beaucoup de l'humanisme actuellement, parce qu'on en manque pas mal. Mais précisément, c'est pour ça que c'est un personnage très moderne. C'est pas du tout quelqu'un qui doit être sorti de la poussière avec son personnage en cire au musée d'Aurillac, et puis tout près d'ici, au musée de la paix, qui malheureusement va disparaître dans quelques temps, son épée d'académicien, qu'on a fait venir pour l'occasion de cette commémoration. C'est un personnage absolument pas poussiéreux, il est absolument moderne. Il est complètement dans ce que devrait être encore davantage la médecine, et il y en a quelques-uns, il y a quand même quelques académiciens maintenant qui sont des médecins.
Et alors, un médecin qui s'attache aussi, justement à son époque, à réduire la mortalité opératoire. C'est un point très important.
C'était un très bon chirurgien. D'abord, c'était un très bon chirurgien sur le plan de la connaissance, de l'application des connaissances et de l'enseignement. Bien sûr, on parlait d'humaniste, mais il s'intéressait aux problèmes délicats et difficiles. Par exemple, les complications des avortements, qui tuaient énormément à l'époque. Et aussi, surtout, il a écrit « Diagnostic urgent d'abdomen ». Le chirurgien d'abdomen, c'est un monument qui est toujours d'actualité. Il a été édité aux éditions Masson beaucoup de fois, je crois que c'est 7 fois. Il a commencé en 1930 et justement, ce livre a sauvé sans doute beaucoup de vies humaines parce que à partir de cela, il y avait énormément d'indications pour ne pas passer à côté d'un diagnostic urgent et sauver une vie. On n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Même avec seulement les moyens de cette époque, on ferait aujourd'hui beaucoup de bons diagnostics. Et donc, notamment en ce qui concerne les fibromes. C'est par rapport aux fibromes, il y a une grande statistique qu'il a faite parce qu'il y avait une mortalité très élevée. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'anesthésie comme maintenant, mais il avait une mortalité extrêmement faible, et il était attaché à ça. Et il disait une chose qui est très importante, qui est très rare aujourd'hui, il faut dire, n'est-ce pas, chez mes confrères, c'est qu'il pensait que les erreurs étaient importantes. Il fallait absolument reconnaître les erreurs qu'on avait faites, de jugement, de technique, pour justement s'améliorer. Les gens qui publient leurs erreurs sont assez rares. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus instructif.
Alors justement, vous parlez de cette publication, Diagnostic urgent de l'abdomen. Je crois savoir que c'est un des ouvrages médicaux français le plus lu et le plus diffusé dans le monde.
Je crois qu'on peut dire ça, et je ne sais pas avec quoi on peut le comparer, je n'ai pas en tête autre chose, mais je pense que oui. Et puis il a été traduit en énormément de langues. En même temps, c'est un livre qui est remarquablement écrit. C'est-à-dire qu'on peut être un bon technicien, un bon opérateur, car Mondor était nécessairement un grand et un bon chirurgien, mais en même temps, on peut écrire la médecine correctement. Alors pour lui, c'était peut-être plus facile que pour d'autres, étant donné ses antécédents et ses autres activités, mais je pense que c'est important ça aussi. Une époque où on n'a que des abréviations, des chiffres, des codes. Je suis expert judiciaire, et souvent dans une expertise, on ne sait même pas de quoi ça parle. Ce n'est plus du français, ce n'est plus du médical, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est assez grave, je trouve, et même ça pose des problèmes en justice.
On va revenir à Henri Mondor. Henri Mondor a donné, vous le disiez il y a quelques instants, son nom à plusieurs signes cliniques et également à une maladie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? J'imagine que ce sont des choses bien précises, bien pointues, mais si vous pouviez nous en dire quelques mots.
Ça veut dire que c'était un clinicien, ce qui tend à manquer beaucoup en médecine. Il ne faut pas faire des IRM au lieu d'examiner le patient. Si on l'examine, l'IRM devient souvent inutile. Et il a décrit des signes simples. J'ai parlé des jugulaires et de la plaie cardiaque. Il y a un autre signe qu'il a décrit, dans les fractures du calcanéum, c'est-à-dire du pied, il y a l'hématome plantaire. Bon, c'est pas un signe extraordinaire, mais enfin, il l'a décrit, c'est lui. Parce que, comme ça, l'observation d'une particularité chez le patient, tout de suite, ça vous fait faire le diagnostic. Et la maladie, alors ça, ce sont des signes qui font partie d'un autre tableau clinique, comme on dit. Hein. C'est pas les peintres, un tableau clinique, c'est les tables de Boissier. C'est les classifications botaniques appliquées à la médecine. Donc on garde ce terme de tableau clinique, les tables. Et précisément, justement, quand on a ça, on sait qu'il y a une fracture du calcanéum. C'est quand même très important. Et c'est un élément même médico-légal. Et lui, il a décrit une maladie qui est isolée. On l'a isolée comme une maladie. Bon, il l'appelait sa petite maladie. Et les dermatologues continuent à la connaître. Effectivement, ils connaissent le nom de Mondor par la maladie de Mondor, qui est une thrombose d'une veine du thorax. Une thrombose, la veine est bouchée, et ça s'appelle la maladie de Mondor. Donc, je sais que mes collègues dermatologues connaissaient Mondor de cette façon-là.
Alors, je le disais, pour introduire le sujet, que Henri Mondor était membre de plusieurs académies, et notamment l'Académie française. Alors, expliquez-nous pourquoi Henri Mondor est entré à l'Académie française.
Alors, ça, je n'ai pas trouvé exactement, mais il connaissait quand même beaucoup d'académiciens, et notamment Valéry. Il a écrit sur Valéry, il a fait venir Paul Valéry à un congrès de chirurgie international qu'il présidait. Et c'est lui, Valéry, qui a fait l'ouverture du congrès. Et j'ai ici, dans les mains, le discours de Paul Valéry aux chirurgiens. Il mêlait, non seulement lui s'intéressait à la littérature, mais il introduisait les littérateurs dans l'activité chirurgicale. Toujours dans un esprit d'humanisme, toujours dans un esprit d'aide à la société, de compréhension, de faire progresser la société humaine. Et précisément, il connaissait aussi Duhamel, qui est devenu académicien avant lui. Donc Duhamel est devenu surtout écrivain, il a arrêté la chirurgie lui complètement, enfin il est devenu seulement écrivain, ce qui est beaucoup, et il était avant lui académicien, il en connaissait d'autres, et il les fréquentait, et quelqu'un a dû proposer, et Valéry c'était très bien, parce que justement Valéry était quelqu'un avec qui il avait eu beaucoup d'échanges, sur qui il avait écrit, il y a plusieurs livres sur Valéry. Voilà. Donc, il y a un autre grand personnage qui aussi l'a fait monter, c'est Mallarmé. Il avait une admiration extraordinaire pour Mallarmé, bon, qui était décédé quand Henri Mondor commençait à le lire. Mais il a contribué à le faire connaître. Et notamment, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je n'ai pas regardé les dernières émissions, mais l'introduction à la Pléiade du livre sur Mallarmé, c'était l'introduction d'Henri Mondor. Hein, il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'années, mais je ne sais plus maintenant.
Donc, les préfaces que l'on trouve dans la Pléiade de Stéphane Mallarmé.
Absolument, signées d'Henri Mondor. Et donc, c'était quelqu'un de reconnu. Alors, il était surtout un biographe. Il a fait beaucoup de biographies, alors, bien sûr, dans la médecine, mais pas seulement. Et donc, il a fait d'autres biographies sur un certain nombre de personnes. Et il a illustré les livres de Georges Duhamel, « Si j'ai Mallarmé », « La vie de Mallarmé » en deux volumes. Il avait ce côté biographe. Il était écrivain, mais il n'était pas vraiment écrivain. Il n'a pas fait de roman. Il était littérateur. Et il mettait en forme, pour faire communiquer à tout le monde, la vie de personnages ou les écrits de certains personnages qui n'étaient pas forcément très connus, mais qui l'embellissaient en quelque sorte. Donc il était destiné à l'Académie française, c'était clair. Pour moi, c'était clair. Il y est rentré peu après la guerre, je crois. Juste après la guerre, je crois, c'est ça.
Il est entré effectivement en 1946 à l'Académie française et il est entré bien après À l'Académie des sciences en 1961.
Mais pour lui, c'est l'Académie de chirurgie. Alors, il a aussi une suite absolument extraordinaire, hein, parce qu'il y a eu, je crois, 40 médecins des hôpitaux, il y a eu 8 professeurs, je crois, mais une bonne vingtaine de professeurs agrégés. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et je crois 3 ou 4 présidents de l'Académie de chirurgie. Pour les chirurgiens, l'Académie de chirurgie, je ne suis pas chirurgien. Mais pour les chirurgiens, c'est leur affaire, quoi. Vraiment, c'est. Donc, on comprend que c'est d'abord l'Académie de chirurgie.
Alors, parmi les ouvrages que vous nous avez apportés, vous avez avec vous, alors je me permets de. Regardez ce que vous avez. Voilà, il y a donc Paul Valéry, L'homme et la coquille, avec les dessins par Henri Mondor. Et c'est donc une autre facette d'Henri Mondor, c'est Henri Mondor, dessinateur.
Alors, Henri Mondor disait de lui-même que le dessin était pour lui comme une situation qui n'était pas angoissante du tout, il n'était pas stressé, mais il était extrêmement attentif à bien reproduire ce qu'il voulait reproduire. Presque un message qu'il voulait faire passer. L'anthropologue dirait que c'était un rite pour lui, pratiquement. Et c'était aussi un signe d'amitié. Il a illustré beaucoup d'autres ouvrages. Quelquefois un seul dessin pour une amie, qui a fait un livre aussi. Mais là, pour Duhamel, il a illustré. Mais aussi, alors Paul Valéry, là, c'est fantastique. Parce que c'est sur les coquillages. Ce sont des dessins d'une finesse extraordinaire. Et avec une vision en perspective. C'est, on a l'impression d'une photographie, avec un excellent appareil photographique. Ça voulait dire qu'il avait, quand on a dit qu'il était attentif à l'âge de 6 ans, c'était pas tellement trompé. Parce qu'il avait une excellente perception de l'espace. Et en même temps, il fait passer un message dans ce qu'il dessine, comme dans ce qu'il écrit. Et c'était peut-être une forme d'écriture pour lui. Je peux m'avancer comme ça, peut-être.
Les chirurgiens, j'imagine, sont assez bons en dessin, puisqu'il faut...
C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que j'ai fait un petit papier dans l'annuaire de l'internat, parce qu'on faisait des biographies sur Mondor, je l'appelais le crayon et le bistouri. Donc c'était nécessaire parce qu'il fallait être anatomiste. On était prosecteur d'anatomie, on était aide d'anatomie, c'était un concours, encore un, puis prosecteur d'anatomie, encore un. Et là, on faisait les cours aux étudiants, les cours d'anatomie, mais on les faisait avec des dessins. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on faisait le cours, on dessinait sur un tableau noir l'artère, le ligament, et après tout ça, on l'effaçait, il fallait recommencer à chaque fois. Ça, c'est fantastique, ça, c'est magnifique de voir ça. Et lui, il excellait, bien sûr, parce qu'il dessinait très bien. Et c'était un excellent enseignant, il avait le mot juste. Et il comprenait parfaitement aussi ce qui pouvait se passer sur le plan de la pathologie par rapport aux organes. Parce que le médecin, il apprend en anatomie, mais peut-être pas comme quelqu'un des beaux-arts. Il apprend en anatomie comme quelqu'un qui va soigner le corps humain. C'est tout à fait important, donc pour ensuite connaître mieux les maladies de ses organes.
Henri Mondor est mort en 1962. A-t-il eu des descendants? Il ne s'est pas marié, mais peut-être a-t-il eu des enfants?
Je crois, à ma connaissance, non. Et je crois qu'il n'y en a pas eu. Et si on avait, j'imagine qu'on pourrait le savoir.
Alors aujourd'hui, en revanche, son nom est attribué à 2 hôpitaux. Alors le premier qui est à Créteil et un autre à Aurillac.
Exactement. Près de l'endroit où il a vécu, il était au lycée d'Aurillac. C'est là où on l'avait reconnu comme un bon dessinateur déjà. Donc il a fait ses études au lycée d'Aurillac. Et il y a à Aurillac 2 choses. D'une part un musée où il y a la statue d'Henri Mondor en cire. On n'a pas osé la faire venir pour l'exposition parce que j'avais peur d'un coup, justement, des internes de la salle de garde qui kidnappent Henri Mondor et qui l'amènent dans un tonus, comme on dit, échevelé, et je ne sais pas ce que serait devenu la statue. Mais par contre, il y a surtout un hôpital. Nous avions invité le directeur de cet hôpital. J'ai essayé de faire un jumelage, ça n'a pas marché. Mais cet hôpital s'appelle Henri Mondor. Il y a 2 hôpitaux Henri Mondor, effectivement. Il y a aussi une place Henri Mondor. C'est pas très connu. Cette place Henri Mondor est au métro Odéon. C'est là, tout près de la faculté de médecine, ou ce qu'on appelait l'ancienne faculté de médecine de Paris, rue de l'école de médecine. Et cette place, il y a la petite place de l'Odéon dans un petit coin, mais on confond. Et la vraie place Henri Mondor, elle est là. Donc, Mondor était un très gros hôpital. C'était le plus gros d'Europe à un moment, mais maintenant, on l'a forcément dépassé.
Vous parlez de Créteil, hein ?
Je parle de l'hôpital de Créteil. Celui d'Aurillac est un peu d'une taille plus humaine. Mais celui-là est une grosse affaire, un gros hôpital qui a produit énormément, qui est une grande qualité. Et précisément, cet hôpital, c'est au moment où on a lancé le projet, en 62, au moment où Henri Mondor est mort. Voilà. Et c'est un ministre, c'est Jean Nenet. On l'a invité pour l'inauguration de l'exposition qu'on avait faite. Il est venu, il était là et il a parlé. Et c'est lui qui, précisément, a eu l'idée, quand il était ministre à l'époque, de donner ce nom à Henri Mondor. Il y a eu un vote aussitôt et je pense que c'est important pour lui. Et je voudrais, moi, que notre faculté s'appelle Henri Mondor et la station de métro s'appelle Henri Mondor aussi. Parce que tout ça, ça se tient.
Alors, Claude Amonet, on arrive au terme de notre émission. Ma dernière question sera la suivante. Que retenir d'Henri Mondor à travers ses multiples facettes?
Personnellement, je pense qu'il faut retenir avant tout un homme et un médecin. Il était écrivain, mais je pense qu'il était d'abord médecin. Parce que le médecin aussi doit être écrivain. Tout médecin doit être. C'est un modèle tout à fait moderne. Ce n'est pas du tout, comme je le disais, un archaïsme, Henri Mondor. Et ce n'est pas nécessaire d'écrire des biographies, de s'intéresser à des hommes qui soient des hommes connus dans la littérature. C'est ce qu'il a fait, lui, c'était ce qu'il aimait, il excellait là-dedans. Mais c'est d'être capable de communiquer, d'être capable d'écrire ce qu'on dit, d'être capable de faire de la vulgarisation aussi sur les idées qu'on a pu développer. C'est d'être en lien avec la société à tous les niveaux et ne pas regarder le patient qui était autrefois le malade, comme un regroupement d'organes, de molécules qu'on va traiter, qu'on va essayer de comprendre. Il faut ça, il faut avancer dans ses connaissances, mais avant tout comme un homme. Et je pense que Mondor aurait fait sienne cette phrase de Montaigne, qui n'est pas très connue, à propos des personnes qui sont en souffrance comme ça. Non, ce n'est pas un corps, ce n'est pas un malade, c'est un homme. Et ça, c'est tout à fait mondorien, Montaigne, Mondor, c'est la même continuité de l'humanisme. C'est ce qui manque beaucoup à la médecine aujourd'hui, je peux le dire, comme professeur de médecine. Nous sommes dans une médecine extrêmement technologique et il faut revenir fortement vers un humanisme. Les patients le demandent et ils se plaignent que les médecins ne les écoutent pas assez, ne les touchent pas. Les signes de Mondor sont des signes de palpation, d'observation et d'écoute. Et donc, ne les touchent pas, ne les écoutent pas assez, prescrivent des examens, bon. C'est vrai, ils en demandent trop. Pas seulement les médecins, mais les patients aussi en veulent. Et souvent à tort. Et il faut rester clinicien. Un clinicien, c'est le clinicien, c'est celui qui touche le patient. Voilà. Et justement, celui qui touche le patient, c'est celui qui est capable, quand on a mis son doigt là où ça fait mal, quand on a compris la personne, qu'on a bien écouté, et qu'on est capable de lui dire non pas un discours médical, technique, qu'on va essayer de vérifier sur Internet, pas du tout, mais sur précisément ce qui se passe pour elle et comment elle va affronter avec le médecin, parce que le patient fait son diagnostic. Écoutez votre malade, c'est lui qui fait le diagnostic, c'est Osler qui disait ça, c'est un grand cardiologue canadien. Et justement, on fait le diagnostic avec le patient, mais on l'accompagne après. Et ça, c'était Mondor, c'est écrit dans Mondor. C'est pas du tout du passé, c'est du futur. C'est ça qu'il faut enseigner maintenant.
Eh bien, je vous remercie, Claude Amonet. J'ajoute que vous êtes aussi l'auteur d'une monographie. Henri de Mondor a raconté aux étudiants, vous l'avez d'ailleurs sous les yeux, alors je vais reprendre les titres exacts. Henri Mondor racontait aux étudiants un chirurgien humaniste. Vous venez de terminer sur ces mots une monographie où d'ailleurs il y a votre nom qui y figure, mais également le nom d'autres personnes qui ont...
Ah oui, tous ceux qui ont aidé dans cette quête du personnage, c'est le véritable. Au début, c'est un peu comme une enquête policière, on a trouvé des traces dans les sous-sols de sa pétrière, etc. Mais la médecine et l'enquête policière, ça se rejoint beaucoup. On recherche des signes, des indices et on arrive à des conclusions. Et donc... Précisément, c'était une quête extrêmement passionnante et pour moi, c'était la découverte d'un homme parce que j'étais dans un hôpital, parce que les personnes qui sont dans l'hôpital Henri Mondor et les étudiants qui sont à la faculté qui est juste à côté, ils disent qu'ils sont des Mondoriens, mais ils ne savent pas qui est Henri Mondor. Et donc, le but, c'était de leur expliquer et j'espère qu'on pourra d'ailleurs rediffuser ce document de façon plus importante avec un autre éditeur.
Eh bien, merci de nous avoir fait passer votre passion pour ce personnage. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci.